Et juste quelques mots par rapport à cette notion de famille. On a vu un peu quelques images sur Israël, et pendant que tu parlais, je me rappelle le projet de Dieu, c'est toucher le monde, c'est sauver le monde. C'était. Et donc il a pris quoi? Il a choisi un homme, Abraham, et ensuite une famille, et ensuite un peuple. Mais ça a commencé par une famille. Et en fait, on se rend compte que Dieu, c'est un Dieu de famille. Et il utilise les familles parce que dans les familles se lèvent des fils et des filles. Et ça, c'est le cœur de Dieu qui est un père. Donc le peuple d'Israël nous parle de cette notion de famille sur qui il a mis la main. Et le but de Dieu, c'est que cette famille soit une bénédiction pour toutes les nations. Eh bien, nous, dans nos familles que nous représentons ici, mais aussi dans la famille spirituelle qu'on représente, c'est un peu la même chose. Et juste dire quelques mots par rapport à ça. Vous savez que notre mission qu'on connaît, mais j'aimerais la redire dans ces temps un peu particuliers que nous vivons. Je rappelle que nous sommes l'Église en général, mais notre assemblée, c'est une famille. Notre vocation, c'est d'être une famille. Une famille qui, à la fois, eh bien, célèbre la présence de Dieu, accueille la présence, mais aussi manifeste son amour, incarne son royaume. Par rapport à cette notion de famille, quelques mots, juste, on va toucher plusieurs points, mais parce que je sens que le Seigneur veut nous rapprocher les uns les autres dans ces temps particuliers. Jésus, il n'a pas parlé beaucoup de famille. Quand on regarde les enseignements, les paraboles, tout ça, il y a le père et le fils, oui, la parabole, mais il n'y a pas grand-chose sur la famille. Par contre, il y a des choses difficiles qu'il a dites. Il a dit, par exemple, celui qui ne va pas haïr son père et sa mère, et qu'il met son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Donc, je suis venu apporter la division dans les familles. On se dit, mais est-ce que Dieu, c'est vraiment un Dieu des familles? Si Jésus dit des paroles si dures. Et en fait, il veut montrer que pour lui, pour le cœur de Dieu, la famille charnelle est très importante, mais pas au point d'avoir la même importance que la famille spirituelle. Et en fait, l'idée de Jésus, c'est de dire, si tu n'es pas prêt à me suivre, parce que soi-disant, tu en premier, c'est ta famille, etc., tu n'es pas prêt. Alors, Dieu est un Dieu des familles, bien sûr, mais je veux vous montrer par là qu'il met en premier la famille spirituelle. Et la famille spirituelle, en fait, ça vient d'un choix. Heureusement, nous tous ici, j'espère, il y a eu un choix un jour. Il y a eu un choix. Et bien sûr qu'on a le choix. Personne ne nous l'a imposé. Va, Josué, ou va, ceci, voilà. Mais il y a un choix qu'on a fait. Et ce choix, eh bien, c'est un peu la même façon que le choix de l'adoption. Le Père, Dieu le Père, nous a choisis, dit l'Écriture. Et les enfants, ceux qui adoptent des enfants, ils ont choisi leurs enfants. Et le choix, Dieu nous a, il dit dans Éphésiens, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc la famille, c'est quelque chose que l'on choisit, qu'on a choisi, et c'est quelque chose que l'on construit ensemble. Tous ceux qui vivent dans les familles, on sait que on peut soit construire, soit détruire. Mais on est appelé à construire ensemble. Si j'ai choisi, ça veut dire que je m'investis. Je m'investis. Ma famille que tu me donnes, Seigneur, que j'ai choisie, eh bien, je veux m'investir parce que justement, je l'ai choisie. C'est un lieu destiné à être un lieu de bénédiction. Une famille, c'est quoi? Une famille, c'est un ensemble de personnes qui a une histoire commune. Et nous avons une histoire commune. Je ne sais pas, ici, ceux qui sont depuis là, les années 92 ou tout ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a toute une histoire. Et puis cette histoire, elle nous a fait qui nous sommes. Donc nous sommes héritiers d'une histoire avec des super temps, avec des temps aussi plus difficiles, mais c'est ça qui fait qu'on est une famille, comme toute famille. Donc on a une histoire, on a un futur. Toute famille a un futur. Quand Dieu a vu Abraham, il a vu son futur. Il a dit, je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils de marcher selon les ordonnances et tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la plage, et bien ta descendance, elle va être une bénédiction pour toutes les nations. Donc Dieu a choisi une famille et une famille, chaque famille, la famille spirituelle que nous formons, il y a aussi un choix du Seigneur et une destinée particulière qui n'est pas la même que les autres. Chaque famille a une couleur, chaque famille, il y a un projet, voyez, chaque individu aussi, mais chaque famille. Et donc, il y a un futur, et c'est ce futur aussi qui nous détermine. C'est ce futur dans lequel on investit. Nous avons une histoire commune, mais nous avons une histoire future commune. Dieu ne conçoit pas l'avenir sans nous. Je répète, Dieu ne conçoit pas l'avenir sans nous. Dieu est un Dieu qui veut travailler avec nous, qui veut œuvrer avec nous, qui veut être avec nous, parce que c'est un Dieu de famille. Et donc, on insiste beaucoup sur la destinée personnelle. Chacun ici, comme les Klein nous ont dit, voilà, on a une mission en Israël, hein, il y a une mission, proclamer la parole. Et puis, en tant qu'individu, nous avons tous une mission. Mais on a une mission aussi en tant que famille spirituelle. Et cette mission, eh bien, c'est une mission où tout le monde est impliqué. Et c'est une mission qui est communautaire et c'est une mission qui est basée sur des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, elles n'ont pas changé. Nous n'avons encore pas vu grand-chose de toutes les promesses de Dieu. On a vu des restaurations, on a vu des guérisons. Si on prenait toutes les bénédictions vécues ensemble, en tant que corps, depuis des années, on serait là à dire, mais Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ça, c'est déjà formidable. Dieu n'a pas fini, mais il veut qu'on aille de progrès en progrès, et parce que le progrès, c'est aussi progresser avec lui, ensemble, c'est aller de gloire en gloire. Dieu a une histoire future et il y a une histoire présente. Et l'histoire présente, c'est parfois un peu galère, mais cette histoire présente, Dieu veut qu'on s'investisse aussi à fond dans cette histoire présente, assis sur l'histoire passée, dirigé vers l'histoire future. C'est ça une famille. Et une famille qui accueille sa présence, j'aimerais donner deux principes par rapport à la notion de famille, pour vivre la famille. Et ces deux principes sur lesquels j'aimerais insister, parce que je pense qu'on est dans des temps où Dieu veut souligner l'importance de cela. Le premier principe, c'est le principe de communion. En grec, c'est koinonia. Et communion, c'est un mot très important. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même est un Dieu de communion. Alors on le sait, on l'a déjà dit, mais c'est quand même étonnant. Dieu, il est trois. Pourquoi il est trois? Parce qu'il aime la communion. Le Père, le Fils, l'Esprit. En fait, Dieu, c'est une famille. C'est une famille. Et donc, cette communion, il nous appelle à la vivre, donc en tant que famille, avec lui, et aussi les uns avec les autres. Donc avec lui, c'est la première chose à vivre ensemble. En tant que communauté, nous sommes appelés à vivre la communion avec Dieu ensemble. Pas seulement individuellement, mais la vivre ensemble. Parce que Dieu fait des choses quand on est ensemble et qu'on vit sa communion ensemble qu'il ne fera jamais quand on est tout seul. C'est différent. Les deux sont importants. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre tout seul une communion avec Dieu. Toute notre vie, nous sommes appelés à vivre en tant que peuple et que famille la communion avec Dieu. Et donc, la destinée de Dieu, c'est dans les épîtres, on voit ça, le plan final de Dieu, c'est d'être en tout. De tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, avec ce qui est dans le ciel, réconcilier. Le but ultime, c'est d'être tout en tous. Et donc, c'est la communion. En fait, le cœur de Dieu, c'est la recherche de communion, sans arrêt, avec toi, avec chacun. Et si on se rappelait ici, la première fois que Dieu nous a touchés, eh ben, on a vécu la communion. Alors, ça nous fait pleurer. Jamais on n'avait pensé pouvoir être autant aimé par un Dieu qu'on ne voit pas. Mais cette communion-là a bouleversé nos vies. Donc la communion avec Dieu, et une des façons de la vivre, c'est louer ensemble. J'en profite pour faire l'annonce que samedi prochain, à la pension Tabor, dans la vallée de Munster, on aura un tabernacle de louange. Et en fait, on ne l'a pas cherché. C'est cet homme qu'on a rencontré pour un séminaire. Il nous a dit, écoutez, vous ne pourriez pas venir. Ici, on a besoin d'aide. Il faut qu'il y ait un hôtel de louange dans ce lieu. Est-ce que vous ne pouvez pas venir? Alors, j'étais. Et puis, il a dit à d'autres de l'église, par d'autres circonstances, eh bien, on s'est dit, on va y aller. Et surtout, qu'on pense qu'il faut qu'il y ait un hôtel d'adoration aussi dans cette vallée. On n'est pas les seuls. Mais je dis, il faut qu'on fasse notre part. Donc, vous avez une occasion. Nous avons une occasion de vivre 4 heures de louange dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas que nous. Il y aura d'autres personnes de Tabor, il y en a qui viennent au-dessus de Strasbourg aussi. Voilà, on verra qui c'est qui viendra à ce rendez-vous. On a donné l'information, j'espère que vous l'avez reçue. Mais c'est tellement important de vivre ensemble les temps dans la présence de Dieu. C'est vrai que ça demande un investissement quelque part. Il faut y aller. Il faut aller dans cette vallée. Ça. C'est trois quarts d'heure quand même. Et le dernier quart d'heure, c'est comme ça, ça monte. Alors, heureusement qu'il y a d'autres chemins. Méfiez-vous dans les GPS. Mais bon, questionnez-moi si jamais vous avez peur d'y aller. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est quand même paumé en hauteur comme ça. Mais je crois qu'on va vraiment... Moi, j'ai senti dans ce lieu là-bas, on a senti vraiment un lieu qui est ouvert. C'est une maison de prière, en fait, dans laquelle nous sommes invités. Il y a une grande liberté. Donc, maintenant, la communion les uns avec les autres. Parce que accueillir sa présence, figurez-vous, ce n'est pas accueillir quelque chose de martien comme ça qui vient du ciel. C'est aussi accueillir sa présence. Nous sommes tous ici des petits temples de l'Esprit, des temples de Dieu. Et donc, accueillir la présence de Dieu, c'est accueillir mon frère et c'est accueillir ma sœur dans ce qu'il a de Dieu. Donc ça aussi, c'est important. Quand on dit une famille qui accueille la présence de Dieu. Voilà. Donc, Jean 17, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, dit Jésus, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Remarquez, la communion avec Dieu et les uns avec les autres est le témoignage pour un monde sans espérance que Dieu est vivant et qu'il existe. L'amour que nous manifestons les uns pour les autres, c'est ça la vitrine. Et c'est quelque chose, vous savez, dès qu'on fait quelque chose de faux, de falsifié, de trafiqué, ça sent tout de suite, ça sent pas bon. Mais quand c'est vrai, que c'est simple, c'est authentique, eh bien c'est ça, c'est merveilleux. Donc cette unité, vous savez, elle n'est pas à créer. Il faut l'unité. Non. Dieu dit, vous êtes déjà un dans l'esprit. Nos esprits sont connectés avec Dieu. On est déjà un. Mais cette unité, elle est à travailler. Et moi, je bénis Dieu pour l'unité aussi entre les églises dans cette région de Guebwiller. Vous savez, on est la seule ville, avec Saint-Louis à ma connaissance, où catholiques, protestants, évangéliques travaillent ensemble, font des actions communes. Il y a quelque chose qui se passe dans ce coin. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Donc, préservons cette unité, entretenons-la. Philippiens 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, c'est le mot koinonia, communion, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, dit l'apôtre Paul, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est l'esprit de famille. Nous avons ici une description de qu'est-ce que la famille et qu'est-ce que cette communion. Et donc, dans cette relation de famille, on voit qu'il y a la relation avec le Père, mais on est tous au service. Regardez la Trinité. Jésus, il sert son Père. Le Père, il sert Jésus aussi. Il l'encense, il l'accompagne, il l'affectionne. En fait, chaque personne de la Trinité honore l'autre, est au service de l'autre. Il y a une sorte d'esprit de service, et au service du monde. Dieu qui voit ce monde, il envoie son fils. Donc, il y a un cœur de serviteur extraordinaire. Se servir les uns les autres. J'aimerais laisser cette pensée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire pour servir mon prochain? Quelle est la dernière fois que j'ai servi mon prochain? Ce n'est pas seulement au milieu de nous. Ça peut être ailleurs. Mais l'idée, c'est servir. Donc, on veut continuer à servir. On veut développer le service parce que le service, l'esprit de service, c'est l'esprit de Jésus lui-même. C'est l'esprit de Jésus lui-même. Donc, la koinonia, la communion, ça parle aussi de sentiments, d'affection et de tendresse. Mes amis, alors je ne sais pas, depuis la pandémie, on fait moins de bisous. Et moi, là, tout de suite, on m'a dit, Luc, attention, hein, vous avez raison. Il ne faut pas faire de bisous trop, les bussières, parce qu'on a rencontré des gens, les rindelles sont manales, donc on sait pas qui c'est qui. Voyez. Non, on se méfie. Donc, pas de bisous, mais quand même, l'idée, c'est qu'il y a de la tendresse et de l'affection au milieu de nous. Et il ne faut pas hésiter à la développer, à la dire. Quelle est la dernière fois que tu as dit ton appréciation à un frère et à une sœur? C'est super, je t'aime comme tu es. Vraiment, j'apprécie. Il faut commencer à parler. Il faut dire les choses. 1 Pierre 1,22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. ardemment. Le mot ardemment, on le trouve quelquefois dans les Écritures. Ici, il est là. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur. Et puis, là, il y a un deuxième passage dans les Écritures où on voit ardemment. Est-ce que vous avez une idée? Dans l'Ancien Testament, buisson ardent, mais il n'y a pas le mot ardemment dedans. Pardon? Oui? Voilà, bien vu. C'est David qui dit, il y a une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans ta maison. Relation verticale, je désire ardemment être avec toi, Seigneur. Relation horizontale, aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors, voilà, et donc ça c'est le principe de communion. Hein, ça c'est le principe de communion tellement important. Et puis le principe de synergie. Le principe de synergie, alors le terme en grec c'est synergéo, c'est-à-dire collaborer, hein, collaborer. Et puis synergo, c'est les collaborateurs. Alors c'est pas la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est les collaborateurs avec Dieu. En fait, Dieu, il cherche à collaborer avec nous. Voilà, il veut travailler avec nous. Il veut mutualiser les dons au niveau vertical et au niveau horizontal. Mettre nos compétences, nos ressources, nos efforts dans un but commun. Et moi, je bénis Dieu parce que depuis des années, mes amis, on peut dire que on a persévéré dans des buts communs, dans bien de domaines. Et le Seigneur nous appelle à persévérer encore pour ces buts communs. La synergie entre Dieu et nous et la synergie entre nous et les autres. 1 Corinthiens 3:9, nous sommes co-ouvriers, synergos, avec Dieu. Ça, c'est une sorte de famille, co-ouvriers. Matthieu 11:29, prenez mon joug sur vous, dit Jésus, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est quoi le joug de Dieu? Eh bien, c'est recevoir ses instructions. Et quand je reçois ses instructions, ben, ça devient léger, parce que je sais quoi faire, je sais où aller, je sais où m'investir. Voyez, toucher le monde par l'amour de Dieu, ça nous paraît grand, immense, même cette vallée, même cette ville. Par contre, recevoir le joug du Seigneur, c'est recevoir l'instruction pour le prochain pas. Et ça, c'est léger. Ça, c'est léger. Voyez. Donc, on a besoin de comprendre que le Seigneur, il veut travailler avec nous. Marc 16, verset 19-20, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travailler avec eux, synergio, était en synergie avec eux, voyez, et confirmer la parole par les miracles qu'il accomplissait. Ben, on a vraiment besoin de chacun d'entre nous. Dieu nous défie à travailler avec lui en synergie, à être en synergie avec lui, beaucoup plus dans tout ce qu'on fait. Donc, cette synergie consiste aussi à trouver l'autre comme supérieur à soi-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que son avis est important. Pourquoi est-ce qu'on a refait des conseils de famille? Parce que le leadership d'une église, ce n'est pas des suiveurs et des leaders. Ça, ce n'est pas une église, ce n'est pas une famille, ça. Mais une église, c'est quoi? C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui écoute ce que Dieu dit et qui écoute chez chacun, le plus petit, le plus nouveau. Et puis, quand il a écouté tout le monde, bien sûr, à ce moment, il y a des décisions à prendre. Mais on ne les fait pas sans avoir entendu chacun. Parce que chacun, figurez-vous que ce qu'on appelle le sacerdoce universel, chacun a la capacité d'entendre Dieu. Et donc c'est ça le Nouveau Testament. Nous sommes tous entre des prêtres, c'est la réforme. Voilà, il n'y a pas des plus grands que d'autres. On est tous des prêtres. Et donc à cause de cela, on a besoin d'écouter ce que Dieu dit, chacun. Donc ça veut dire que chacun est responsable. Je ne vais pas mettre un poids, mais on a besoin chacun de ça. Et puis, donc, une famille qui célèbre sa présence, accueille sa présence, manifeste son amour, et ça, c'est les relations. Alors, vous savez, quand on est enfant, l'amour, il se reçoit. Mais quand on est adulte, l'amour, il se donne. La maturité d'un chrétien, bien sûr, il reçoit toujours, on a toujours besoin de recevoir l'amour, mais on est appelé à le donner. Dieu est la source de l'amour. Et il n'y a pas d'amour sans relation. C'est pour ça que quand on dit Dieu est amour, la Bible dit ça, Dieu est amour, ça veut dire qu'il n'aurait pas pu l'être s'il n'était pas en relation avec le Fils, le Père et l'Esprit. C'est impressionnant cette histoire de Trinité. Dieu est relation, ça veut dire qu'il est amour. Parce que quand on aime, il y a un objet, puis il y a le sujet de l'amour. l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, etc. etc. L'Esprit qui fait descendre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc il y a toute cette synergie de l'amour, l'amour de Dieu, oui, parce que Dieu est relationnel. Et donc, quand on voit cette Trinité, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de relation. Il y a une relation qui existe en Dieu, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que ses enfants, nous sommes appelés à rentrer dans cette dynamique de la relation et de la communion que Dieu a avec son Fils. Et il dit, mais viens goûter à cette relation, viens. Au milieu de cette Trinité, nous sommes invités à goûter à cette famille et à cette relation. Et Jésus dit ceci, c'est très fort, vous savez, il parle de ses disciples. Pendant 3 ans, il vit avec eux, etc. Et à un moment, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. C'est quoi le but d'un disciple? Souvent, on dit, il faut faire des disciples, il faut faire des disciples. C'est vrai, mais le but, ce n'est pas d'être disciple. Le but, c'est d'être des amis. La maturité du disciple, c'est celui qui devient ami de Dieu. Abraham, il est question de lui comme étant l'ami de Dieu. Moïse a été écrit comme l'ami de Dieu. Ils avaient des face à face dans l'attente de la rencontre. Donc c'était les amis de Dieu. Mes amis, je pense vraiment que le Seigneur, son désir le plus cher, il nous dit, tu n'es pas un serviteur, mais tu es mon ami. Ça c'est un peu le fils qui est mûr ou la fille qui est mûre et le père il peut lui partager ce qui est sur son cœur. Donc voilà, ça c'est la famille. Ça c'est la famille. Abraham, ami de Dieu, quel exemple. Et un jour, ben justement, on a vu la mer morte, c'était le lieu de Sodome et Gomorre. Il y avait ce jugement. Et Dieu dit, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Ah ben non, parce qu'Abraham c'est mon ami. Ami de Dieu. Nous, des hommes, on peut être des amis de Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est le but. Et le but de cette amitié, c'est pas de se faire des câlinous. Vous voyez ? Ah, je suis ami de Dieu, c'est super, je ronronne dans sa présence. Mais non, le but d'être ami de Dieu, c'est d'exercer l'autorité qu'il nous a donnée en tant que fils et filles pour changer les atmosphères, pour changer les situations, pour servir et amener quelque chose du ciel sur cette terre, que ton règne vienne. Donc c'est ça, le but de l'amitié, c'est changer les choses. C'est exercer l'autorité que Dieu nous a donnée, une autorité non pas pour écraser, mais une autorité pour servir, mieux bénir. Voilà, donc Moïse, il passait du temps face à face avec Dieu, dans cette tente de la rencontre. Et d'ailleurs, le mot face à face, c'est au pluriel en hébreu. Face, S, deux faces. On pense que Dieu trinitaire, au moins, ou le Père et le Fils. Et Moïse, il n'était pas tout seul. Il était très souvent avec Josué, dans l'attente de la rencontre. Le Père et le Fils physique rencontrent le Père et le Fils, Dieu, face à face, au pluriel. Donc il y a vraiment quelque chose ici que Dieu nous dit, et quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Quand on lit ça, la question qu'on se pose c'est « Mais comment est-ce qu'il a aimé ?» Il me dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez les uns les autres. » Mais il nous a aimé comment? Et là nous sommes avant la croix. Alors, il y en a qui vont me dire, moi, il nous a aimés, il a donné sa vie pour moi. Oui, non, mais là, on est avant. Donc il a, alors, Jean 15, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Donc, Jésus nous aime comme le Père l'aime. Et en fait, la recette, c'est ça, c'est que c'est une famille. C'est-à-dire, le Père, il aime son Fils, vous voyez ? Le Fils, il aime son Père. Et donc, cette relation d'amour est une relation de famille. Et c'est ça que le Seigneur souligne. Nous sommes une famille et nous sommes appelés à nous aimer comme le Père nous a aimés, c'est-à-dire à développer des relations filiales entre Père et Fils, entre mère et fille, entre fille et mère. C'est ça une communauté. C'est vraiment ça, une communauté. Et donc, Jésus, vous savez, le point de départ de Jésus, il avait des entrailles de miséricorde. Le Père, il dit, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est venu de ses entrailles. Que le Seigneur nous aide à avoir des entrailles d'affection, d'amour les uns pour les autres. Le Père aime le Fils, Jean 5, il lui montre tout ce qu'il fait. Comment le Père aime le Fils ? Eh bien, il lui montre ce qu'il fait. Mais réfléchis, ça voudrait dire quoi pour nous dans une communauté ? Là, je réfléchis. En fait, viens chez moi, regarde ce que je fais. Regarde comment je vis. Voilà, on ouvre les maisons. Mes amis, j'en profite pour donner une couche. Je crois vraiment qu'on est appelé à ouvrir les maisons de plus en plus. Et on va le faire, on y arrive. Incarne son royaume. Je termine par là. Quelques points, toujours sur la famille. Et c'est l'image de Job. La plus belle image de la famille dans les Écritures, c'est l'image du crocodile. On en a déjà parlé hein, dans une prédication il y a quelques années. Job chapitre 41, versets 7 et 8. La description. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. J'avais tout un truc à dire là-dessus, mais je vais être court. Comme par un sceau. Le sceau, c'est quoi ? C'est le sceau de la royauté. Dieu nous dit, nous sommes une race royale, un sacerdoce élu. C'est le sceau de la royauté. L'affection, en fait, l'amour, la famille, c'est ça qui donne le ton. C'est ça qui a le sceau de l'autorité. Le gouvernement des cieux, c'est la famille. C'est Dieu, le Père, Dieu, le Fils, il crée le monde. Quelle puissance de création, quoi. Il crée l'homme, il crée la femme, il crée le monde. Toute la création, par lui, par une famille. Et bien, de la même façon, nous sommes appelés, en tant que famille, à créer, à recréer, à restaurer, à guérir, etc. Et donc, vous avez vu les boucliers qui sont unis ensemble, ils ne laissent pas l'air. Jésus a parlé du prince de l'air dans ce monde. Le bouclier nous parle de la foi. On a besoin de se couvrir les uns les autres et d'être serrés. Alors, je pense qu'il faut voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Mais je vous dis ça déjà par rapport au conseil de famille que nous aurons samedi prochain. Ça sera samedi à 17h, 19h au collège Daniel. Pas 15 jours, pardon, 15 jours, excusez-moi, dans 15 jours. Et donc dans ce conseil de famille, on parlera du rythme de nos rencontres et du format de nos rencontres. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse autrement ? Pensez à ces choses. Comment resserrer les liens ? Voilà, donc ça sera quelque chose. Mais donc l'esprit de famille, c'est développer une autorité spirituelle et l'autorité spirituelle, je termine par là, un des points, c'est l'unité. Jésus a dit, une maison divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir. Donc, nous avons besoin, pas seulement d'être, comment dire, dans la paix, mais on a besoin d'être unis. Et parfois, on peut marcher les uns à côté des autres, mais ce n'est pas ça l'unité. Et Dieu veut, je sens qu'il veut pousser le curseur, là, qu'on soit plus les uns les autres. Vraiment, il y a quelque chose qui est fort parce que l'unité, elle fait dégager les ténèbres. Vraiment. Donc, serrer les uns contre les autres, les écailles ne laissent pas passer de l'air. Et l'autorité, c'est dans la prière aussi. Vous savez, le royaume de Dieu, il est toujours l'exaucement d'une prière. Je répète, le royaume de Dieu, c'est toujours l'exaucement d'une prière. Et quand Jésus a dit, prie de notre Père, que ton règne vienne, chaque fois que le règne de Dieu vient quelque part, une guérison, quelqu'un qui retrouve l'espérance, etc. Chaque fois que le royaume de Dieu vient, c'est toujours le résultat d'une prière qui a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Donc mes amis, l'unité, la prière, les uns pour les autres, nous couvrir les uns les autres, et ça c'est la clé. Et Jésus, il y a un moment, je vois beaucoup de choses, il y a Jésus, un moment, et je termine, c'est voilà, Jean 1. Il y a deux disciples qui entendent parler des paroles de Jésus, ils se mettent à suivre Jésus. Jésus se retourne, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous ? Jésus aime toujours bien qu'on prononce, qu'on dise ce qu'on veut, ce qu'on cherche, tout ça. Ils lui répondirent, Rabbi, ça veut dire maître, où demeures-tu? Donc je lui dis, mais c'est quoi le rapport, quoi? Que cherches-tu? Et l'autre, où demeures-tu? Tu te dis, mais attends, c'est quoi le truc? Et Jésus lui dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui en ce jour-là. Comment est-ce que Jésus faisait des disciples? En les invitant chez lui. Et je me dis, en fait, tout se passe dans les familles et dans les maisons. Et dans l'histoire de l'Église, ça a commencé comme ça et ça finira comme ça. On a besoin, mes amis, de dire, viens chez moi, je te montre ce que je fais. Montre nos vies, c'est la vie de la maison. L'Église est une grande maison, mais dans la grande maison, il y a des petites maisons. Que le Seigneur nous aide à être plus cette famille. Donc maintenant, simplement, on veut terminer. J'aimerais qu'on s'approche pour la table, la Sainte-Cène.